RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec autour de la table ce matin la coach de vie Joëlle Dagosséry, l'avocat Charles Consigny, la sophrologue Laura Varto-Martinez. Nous accueillons notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
C'est le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans les grandes gueules.
Merci.
Prof, aujourd'hui, c'est un métier dangereux.
C'est un métier qui, malheureusement, parfois peut l'être. Il ne l'est pas structurellement. Quand l'immense majorité des professeurs, fait cours dans des conditions normales. Mais on a eu des drames ces dernières années qui montrent que, malheureusement, parfois, les professeurs ne sont pas à l'abri des maux de la société. Que parfois, les maux de la société entrent dans l'école. Et malheureusement, parfois, jusqu'à des drames qu'on a tous en tête.
Justement, ce drame, l'assassinat d'Agnès Lassalle, puisque le procès du meurtrier, c'est en ce moment même devant la cour d'assises de Pau. C'était il y a 3 ans. Cette professeure d'espagnol de 53 ans a été poignardée par un élève en pleine classe. Et on se souvient de ces images bouleversantes de son compagnon qui dansait seul face à son cercueil le jour de ses obsèques. C'est un drame qui avait ému les Français. Et on se dit, 3 ans après, est-ce que la menace qui pèse sur ces profs, notamment ces attaques au couteau, est-ce toujours une réalité? Qu'est-ce que vous, en tant que ministre, patron de l'administration, vous avez fait pour mieux protéger nos enseignants?
Alors aujourd'hui, on contrôle, comme vous le savez, très massivement. On fait des contrôles aux établissements. Donc on a fait 20 500 contrôles depuis un an. On a augmenté la cadence. On est à quasiment 2 500 contrôles par mois actuellement. Pour précisément faire des fouilles de sacs, etc. Donc concrètement, on a trouvé en un an un peu moins de 800 armes blanches, au sens large. Couteau, cutter, enfin tout ce qui peut, d'une manière ou d'une autre, servir d'arme blanche a été identifié. C'est évidemment beaucoup trop. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des jeunes à qui il semble naturel de se balader avec un couteau ou un cutter dans leur sac. Et donc c'est pas normal. Mais donc j'allais dire cette partie-là, qui est la partie entre guillemets symptomatique. On fait tout évidemment pour enrayer ce processus. Mais l'amont aussi. Et pardon d'y revenir, mais c'est important. Hein. Le couteau avant d'aller à l'école, il a quitté la maison. Hein. Bon.
Donc la responsabilité aussi des parents.
Responsabilité collective. La violence avant d'aller à l'école, elle est aussi à l'extérieur. Et donc, il faut qu'on travaille collectivement sur le fait, et moi je suis absolument catégorique là-dessus, qu'on ne touche pas à l'institution scolaire et qu'on ne touche pas à un professeur. Et de ce point de vue-là, il y a quand même un problème collectif, c'est que si vous voulez, à force de, vous voyez, toujours un peu décrédibiliser, moquer, relativiser, etc., etc., on a un peu désacralisé la figure du professeur.
Qui relativise, qui se moque des profs?
Collectivement, à commencer par le fait qu'on dise, pour la plupart d'entre nous, on dit prof. Pardon, c'est le seul métier que je connaisse pour lequel on emploie un diminutif. Ils sont professeurs.
Un prof, c'est péjoratif pour vous?
C'est pas forcément péjoratif, j'observe que c'est un diminutif et que c'est le seul métier pour lequel on emploie un diminutif. Il y a des métiers pour lesquels on emploie des surnoms. Oui. Il y a peu de métiers, en tout cas je ne connais pas d'autres, pour lesquels on diminue le nom. Ils sont professeurs. Ils représentent une institution et ils ont dédié leur vie à former nos enfants ou ceux des voisins. Et rien que pour ça, si vous voulez, pour moi, le respect est absolument catégorique. J'ai vu la semaine dernière, vous avez vu aussi les propos d'un député Rassemblement National qui parlait des professeurs mal coiffés ou je ne sais quoi, enfin des profs mal coiffés.
Oui.
Non, quoi.
J'ai pas
on
vu.
Peut pas, on peut pas aspirer à restaurer l'autorité d'un côté et à dire de l'autre
oui,
que,
est-ce que eux-mêmes
on moque
ont pas été, pardon, on n'a pas été un peu responsable de tout ça. Quand je dis, c'est-à-dire les profs eux-mêmes, la communauté éducative,
c'est collectif.
Parce qu'on a dit, il faut arrêter que le prof soit sur son piédestal. D'ailleurs, on a supprimé les estrades. Genre on a dit maintenant, il faut que ça soit plus horizontal. On a désacralisé aussi cette fonction-là. Peut-être qu'avant, on était trop dans le prof qu'on mettait pas en cause, tout puissant dans la classe, mais maintenant, il est impuissant dans sa classe.
Alors, heureusement, il n'est pas encore impuissant dans sa classe, et puis on travaille à ce qu'il ne le soit pas. Mais la société a changé. Et donc, moi, quand j'entends les gens qui me disent les hussards noirs républicains et tout ça, il ne faut pas faire de nostalgie sur des anciennes figures ou des anciennes pratiques pédagogiques. Il ne faut pas faire de nostalgie. En revanche, il y a quelque chose pour moi qui est non négociable, y compris en termes de sanctions et y compris en termes de poursuites pénales, c'est qu'on ne touche pas un professeur. C'est tout. La figure du professeur, elle est intouchable.
Mais Joëlle Dagosséry.
Je suis d'accord avec vous, monsieur le ministre, sur le respect qu'on doit aux professeurs en tant qu'élèves. mais aussi en tant que parent, parce que vous savez qu'il y a des parents qui débordent en termes d'intrusion dans les cours, dans ce que les cours doivent être, et aussi même dans la notation. J'ai une sœur enseignante et ma sœur et puis d'autres collègues à elle, sur la question du respect, se sentent d'abord dérespectés par l'institution avant les élèves.
Exactement.
Par exemple, quand vous faites un bac plus 5, vous faites de très longues études et qu'on vous embauche à 1600 ou à 1700 et qu'au bout de 8 ans ou 9 ans, vous arrivez à peine à 2000 euros, bah, et que vous gérez des classes de 30 élèves, vous êtes en totale autonomie.
L'avenir
de la France et qu'on vous paye, pour moi, j'appelle ça être payé au lance-pierre au regard de l'investissement, mais aussi du rôle dans la nation. Bah, vous vous sentez dérespecté.
Donc respecter les profs, c'est aussi mieux les payer.
Complètement, oui. Mieux les payer par l'institution.
Les professeurs.
Alors, et aussi, je vais rajouter autre chose dans ça, sur les contractuels, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il faut 6 ans à un contractuel pour être en CDI, alors même qu'il est inspecté très régulièrement par l'institution, alors même qu'il a un dossier, donc on peut savoir si c'est un bon professeur ou pas. Pourquoi est-ce qu'il lui faut 6 ans pour être stable? Pourquoi est-ce que quand on est contractuel, par exemple, on peut rester le premier mois ou le deuxième mois sans salaire? Vous voyez, moi, c'est des situations très concrètes. Moi, j'ai une sœur dans l'enseignement. Donc
l'institution ne respecte pas ses employés.
Et pourquoi est-ce que les professeurs ont des difficultés à avoir accès au rectorat, ne serait-ce que pour avoir quelqu'un en ligne? Tout ça, en fait, ce ne sont pas ni les élèves ni les parents, c'est l'institution. Donc moi, je veux savoir, est-ce que vous, en tant qu'institution, pas vous personnellement, mais l'institution, quel est le respect qu'elle accorde concrètement aux professeurs?
Alors, Édouard Geffray, ministre de l'Éducation, vous répond.
Alors, d'abord, juste pour dire qu'effectivement, le respect des professeurs et des personnels en général, hein, parce qu'il n'y a pas que des professeurs, il y a 400 000 personnels aussi qui ne sont pas des professeurs d'éducation nationale, il doit être dû par tout le monde. Vous avez cité les parents, vous avez cité l'institution. Sur l'institution, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que l'institution doit respecter ses professeurs. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, un professeur qui part en retraite, il reçoit un arrêté marqué « Vous êtes radié des cadres à compter du 1er septembre ». Bon. J'ai demandé à tous les recteurs de France de changer les pratiques, d'écrire des lettres personnalisées pour remercier les gens pour leur carrière et d'avoir, à ce point, construit l'avenir de notre pays. C'est tout bête, mais c'est une première marque de respect. La rémunération, alors maintenant on commence à 2100. 1600, c'était il y a 8 ans justement. Donc c'était au début du quinquennat Macron et maintenant on est à 2100 quand on commence. On a indéniablement une question de rémunération des professeurs en France. On a indéniablement aussi, comme vous le savez, une question budgétaire. Donc je ne suis pas tout à fait...
Oui, mais il y a moins d'élèves.
Par rapport à que je ne suis pas tout à fait libre. Et donc tout l'enjeu, c'est effectivement au cours des... On sait déjà ce qui a été fait, je vous dis, de 1600 à 2100 euros, mais tout l'enjeu, c'est de revaloriser notamment les premières moitiés de carrière. Parce qu'en réalité, c'est là qu'il y a une longue stagnation de la rémunération qui est objectivement, qui est pas encourageante quand t'es professeur, quoi. Voilà. Donc ça, on va y travailler. J'y travaille déjà. J'ai pas les marges de manœuvre budgétaire pour l'instant.
J'ai une proposition à vous faire parce que vous avez dit vous-même que nous allons perdre 1,7 million d'élèves d'ici 2035 puisque on voit bien que la natalité est en berne. Donc ça veut dire moins d'élèves, vous avez besoin de moins de profs. Donc si vous avez moins de profs, moins d'enseignants, déjà il y a 5000 postes qui vont être supprimés.
4000.
Mais bon, c'est peu par rapport à ce qu'il faudrait sans doute par rapport aux chiffres que vous-même vous avez donné, hein. Peut-être que là, il faut en profiter pour avoir moins de profs et peut-être mieux les payer. Est-ce que moins de professeurs et mieux les payer?
Alors d'abord, c'est une trajectoire à 10 ans.
Oui.
C'est pas une trajectoire pour l'entrée prochaine, hein.
Non.
Bon. Et précisément, ce que j'ai fait, c'est que c'est la première fois qu'on donne des chiffres à 10 ans sur la démographie. D'ailleurs, qu'on les produit, hein. Et j'ai fait faire ça pour que, forcément, on se donne une vision un peu de long terme. Parce que, si vous voulez, moi, aujourd'hui, l'enfant qui rentre en maternelle, il est pour 15 ans le système éducatif. Donc, il y a un moment, il faut prendre un tout petit peu de recul par rapport à l'actualité et se dire comment je me projette sur l'avenir. Bon. On va pas supprimer des postes de professeurs à due proportion de la démographie. Si on fait ça, on ferme des milliers d'écoles et on va abîmer un système.
Donc, on va laisser des écoles ouvertes alors qu'il n'y aura plus d'élèves.
Non, il y a deux choses à faire. D'un côté, il faut tirer les conséquences du chiffre démographique. Il y aura probablement un peu moins de professeurs au cours des prochaines années. Assez malheureusement de mécanique. Si je prends Paris qui perd 30% de ses élèves au cours des 10 prochaines années, j'imagine que dans 10 ans, toute majorité confondue, il y aura moins de professeurs à Paris qu'aujourd'hui. Simplement, il faut aussi, entre guillemets, profiter de l'aubaine démographique. C'est pas une bonne nouvelle par ailleurs. Pour l'école, il faut profiter de l'aubaine. À la fois pour améliorer le taux d'encadrement.
Ah bon?
Et puis, oui, parce qu'il y a des endroits où on a besoin de l'améliorer. Vous avez encore, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a encore des classes à 30 élèves. J'ai aussi des classes en France à 9 ou 10 élèves. Vous voyez bien qu'il y a un déséquilibre. Alors, tout ça fait des moyennes qui sont plus ou moins correctes, mais en attendant, il y a des déséquilibres. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à la fois à compenser le déséquilibre, à travailler sur la qualité.
Il n'y a pas moyen de récupérer de l'argent. C'est ça que je voulais faire, de faire des économies, utiliser cet argent ailleurs.
Sur long terme,
on a peut-être besoin de moins d'écoles, mais plus d'EHPAD, par exemple. Dans un, bah oui. Non, mais c'est pas
la France
formule.
De demain, c'est arrivé.
Bah, c'est, pardon, mais la France de demain, c'est une France
moins
qui
d'écoles,
vieillit.
Plus d'EHPAD.
Bah, oui, non, c'est
un beau slogan de campagne.
C'est ma faute si les Français font plus d'enfants.
Non, non, moi, si ça vous dérange pas, c'est tout pour la jeunesse, mon slogan. Mais chacun le sien.
Bah, vous pouvez pas obliger les gens à faire des enfants s'ils veulent plus en faire.
Non, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est permettre à ceux qui en veulent de les avoir. C'est ça l'enjeu. C'est pas d'obliger les gens à avoir des enfants. C'est de faire en sorte que les gens qui en veulent puissent en avoir. Et pour ça, faut leur redonner un tout petit peu espoir. Et l'école, ça fait partie de l'espoir. Quand j'ai une école pas trop loin de chez moi, qu'elle est de bonne qualité, etc., etc., ça fait partie de l'espoir.
Ce qui fait partie de l'espoir, c'est que nos enfants s'en sortiront mieux que nous.
Oui.
Or, c'était même plus qu'un pari. C'était un contrat qu'on passait dans l'école de la République. Ben, ce contrat n'est plus rempli et l'ascenseur social ne fonctionne plus.
Alors, ça nécessite d'être un tout petit peu de...
Combien d'enfants ouvriers dans les grandes écoles en ce moment? Le taux a reculé.
Oui, alors ça c'est vrai, le taux a reculé, mais vous voyez, typiquement, vous dites, on peut poser la question pour combien de jeunes issus de défavorisés ou fils d'ouvriers, etc., chez les hauts fonctionnaires. On a généralisé les prépas talents, on a désormais des milliers de jeunes qui sont issus de défavorisés qui vont devenir hauts fonctionnaires demain, et qui le sont même déjà parce qu'ils sont en train de réussir les concours. Donc, on n'est pas condamné à l'impuissance, hein. Enfin, pardon, c'est pas parce que depuis 40 ans, on a un certain nombre de choses qui ont régressé sur notre contrat social, et je suis d'accord, c'est un contrat social. Qu'on n'est pas capable de le tenir et qu'on est condamné à l'impuissance.
Oui, mais
donc maintenant, soit on se remonte les manches et on bosse pour les 10 prochaines années, soit on se dit, ah là là, ça va très très mal. Moi, je préfère dire aux gens, on va se bouger pour les 10 prochaines années. D'ailleurs, on redonne une perspective, d'où le fait que je suis sorti sur 10 ans. Mmh. On redonne une perspective.
Les 10 prochaines années.
Mais il faut y croire, quoi.
En 2027, il y a des élections. C'est-à-dire que vous venez d'arriver, je comprends, vous êtes plein d'optimisme et de. Mais on est à un an de la fin d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Donc, il y aura une nouvelle majorité, une nouvelle équipe,
oui, mais
des nouveaux projets.
Voyez, enfin, moi, ce que j'espère, pardon.
Combien de ministres d'éducation depuis qu'Emmanuel Macron a été élu en 2017? Je crois qu'on bat un record.
J'ai la chance d'être le 8e.
Le 8e, vous voyez.
Mais
comment, quand on change comme ça autant de ministres d'éducation, avec chaque fois des projets, de la volonté, comment peut-on avoir une vision à long terme, et vous la souhaitez, alors qu'on a changé de ministre quasiment tous les ans?
Mais il y a deux choses différentes. Il y a le sujet des réformes. Moi, j'ai dit dès le départ, en arrivant, il n'y aura pas de réforme, Geoffrey. Parce que ce ministère n'a pas besoin de réformes actuellement, il en a déjà eu suffisamment. Et puis, il y a le sujet de méthode et de travail à long terme. Moi, ma conviction profonde, si vous voulez, aujourd'hui, un enfant qui rentre en maternelle, personne ne se pose la question de savoir comment il doit sortir quand il aura son bac dans 15 ans. Or, pour moi, c'est ça la vraie question.
Ouais.
Donc, j'essaie juste de faire en sorte qu'en termes de méthode, à la fois en termes de prévisibilité et en termes de méthode, et ça, c'est vrai, ce sera pour tous mes successeurs s'ils décident de réutiliser ces outils-là, on fasse en sorte de voir les choses à 10 ans ou à 15 ans. Après ça, ils perdent des visions politiques différentes. Et ça, c'est normal, c'est le propre de la démocratie. Mais il faut que ces visions politiques, qu'elles soient de gauche, de droite, machin, ça m'est égal, il faut qu'elle soit à 10 ou 15 ans, parce que c'est cet horizon-là qu'on pense l'école.
Alors, les questions des grandes gueules dans un instant. Des questions d'actualité, notamment après la mort de ce stagiaire qui a été écrasé par un chariot élévateur. Ça s'est passé vendredi dernier. Et ça pose la question des conditions de sécurité de l'accueil des jeunes en entreprise. Des questions également sur votre volonté d'un retour de l'exigence, notamment en matière d'orthographe et de grammaire. Et vous écouterez ce que disait Cécile Duflot de matin sur RMC. Elle est pas d'accord avec cette exigence. C'est pas très grave. Bon, à tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
La suite des grandes gueules avec Édouard Geffray, le ministre de l'Éducation nationale, qui est face au GG ce matin, face à Joël Dagossi, Richard Consigny, Laura Barton-Martinez. On va entendre vos questions, mes chers grandes gueules, mais j'ai moi une question d'actualité, et je voudrais pas l'oublier. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de la mort de ce lycéen stagiaire survenu ce vendredi dans le Gard. C'est un stagiaire de 15 ans qui est mort écrasé par un chariot élévateur. Ça s'est passé à Bagnols-sur-Cèze. Ça pose la question des conditions de sécurité de l'accueil des jeunes en entreprise, avec tous ces stages, toutes ces entreprises, de l'encadrement. Qu'est-ce qu'on peut améliorer?
Alors d'abord, je me permets juste de le dire, parce que c'est important, mais parce qu'on a tous été quand même très ébranlés par la mort d'un élève. Enfin, pour nous, c'est l'impensable, si vous voulez. La mort d'un élève, c'est le drame absolu pour n'importe quelle communauté éducative, et évidemment, on est en sympathie absolue avec sa famille. Il y a un enjeu qui est, pour nos élèves, de faire des stages en entreprise. Vous en accueillez ici, j'imagine, chaque année. C'est un enjeu d'égalité des chances. Et donc, c'est important qu'un élève puisse découvrir ce qui se passe dans les milieux professionnels, parce que c'est le seul moyen pour qu'ils reproduisent pas finalement. On parlait tout à l'heure de la promotion sociale, bah c'est un des moyens de reproduire justement ce que font ses parents, ses frères et sœurs, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est bien des stages d'observation en troisième et en seconde, et qu'un stage d'observation, bah normalement, on n'est pas censé agir. On n'est pas censé faire des branchements électriques si on est ici à la télévision ou à la radio. On n'est pas censé conduire un chariot élévateur, etc. Donc là, ce qu'on fait, on fait deux choses. D'abord, il y a effectivement une enquête sur les circonstances.
Il y a peut-être une faute. Ce jeune n'aurait pas dû utiliser ce chariot élévateur. Je rappelle qu'il était dans une entreprise spécialisée dans le commerce de bois et de matériaux de construction.
Ici, je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'il y a une enquête pénale qui est actuellement en cours et une enquête administrative des deux côtés des hein. Inspection du travail pour voir ce qui s'est passé dans l'entreprise, inspection de l'éducation nationale pour voir ce qui s'est passé du côté de l'éducation nationale. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il était sur un chariot élévateur, il n'aurait jamais dû y être.
Alors, il faut un permis pour les conduire.
Ça, c'est très clair. Voilà. Bon. Donc, nous, indépendamment de l'enquête sur cette affaire, ce qu'on est en train de faire avec Jean-Pierre Farandou et Sabrina Roubache, c'est qu'on lance une enquête conjointe des deux inspections affaires sociales et éducation nationale pour faire court, pour précisément voir comment mieux sécuriser encore les stages de mineurs en milieu professionnel. Parce qu'il y a probablement des choses qui n'ont pas totalement connues, perçues. Est-ce qu'une entreprise, vous voyez, quand elle accueille un jeune stagiaire, est-ce qu'elle se dit, attention, il est en observation, il ne peut rien faire d'autre, entre guillemets, que s'asseoir, observer, poser des questions? Je suis pas sûr aujourd'hui qu'elle en ait complètement conscience. Donc il y avait des choses comme ça, il y a probablement des choses comme ça à régler. La preuve, c'est que si un drame comme ça a pu arriver, c'est qu'il faut le faire, pour éviter que, évidemment, ça se reproduise.
Ouais. Et il faut pas que ça dissuade non plus les entreprises de prendre des jeunes. Bah, en disant, moi, je vais pas prendre de risque, donc zéro jeune.
C'est une question de bourse.
Alors, d'autres questions sur d'autres sujets. Charles Consigny.
Alors, il y a beaucoup de sujets. Moi, je vois quand même deux, trois grands sujets. Beaucoup de professeurs quand même le disent, notamment au collège. C'est tout bête, hein. Les collégiens ont trop de cours. Ils ont trop de cours dans la journée, ils sont assommés l'après-midi, ils ont du mal à suivre et on leur demande un temps d'attention sur la journée qui en fait ne permet pas vraiment de leur prodiguer l'enseignement nécessaire. Donc beaucoup de gens, et je pense que ça vaut aussi pour les parents d'élèves, aimeraient qu'on s'inspire des modèles anglo-saxons avec des cours le matin et d'autres activités l'après-midi, du sport, que sais-je, pour aérer un peu tout ça. Première question. Et deuxième question, dans la même logique d'aérer un peu tout ça, est-ce que on ne pourrait pas faire un peu davantage rentrer la société au collège et au lycée? Parce que moi, je suis très frappé par ça. Souvent, les lycéens, notamment dans les milieux un peu défavorisés, en fait, ne savent pas ce qu'ils pourraient faire comme métier, n'ont pas l'horizon très dégagé. Ce qui peut-être explique un peu le décrochage, l'absentéisme, le fait qu'il y en ait qui comprennent même pas l'intérêt de tout ça. Pourquoi est-ce qu'on leur enseigne tout ça, etc. Est-ce qu'on ne devrait pas davantage inviter la société à rentrer dans le collège ou le lycée, c'est-à-dire à venir soi-même à remplacer des profs par moment ou à enseigner certaines matières pour ceux qui sont qualifiés pour le faire, il y en a quand même, ou en tout cas venir présenter des métiers, des secteurs d'activité pour donner des perspectives aux jeunes. Je trouve que en l'état, tout ça est un peu trop étanche au reste de la société.
Alors,
c'est deux questions.
Deux questions assez vastes. Sur la première question, vous savez qu'il y a eu la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Qui sont notamment penchés sur cette dimension-là, c'est-à-dire le volume d'heures de cours par jour, etc., etc. Bon, on a un sujet en France, c'est qu'on a beaucoup d'heures de cours par semaine, sur un nombre de semaines plutôt plus limité que les autres. Donc on a plus, les élèves ont plus de vacances dans l'année en nombre de semaines, et par contre ils ont beaucoup plus d'heures de cours dans la journée.
Tout est concentré.
C'est plus concentré que chez nos voisins globalement. Hein. C'est pas une science exacte, mais enfin globalement c'est plus concentré. Donc pardon de dire comme ça, c'est pas pour envoyer le calendrier, mais enfin typiquement c'est un sujet pour moi de présentiel 2027. C'est-à-dire que je peux pas changer les choses pour la rentrée 2026. Ça pose en fait tout un tas de questions. Ça pose la question de la prise en charge des enfants une fois qu'ils sont dehors.
Mais vous, quelle est votre conviction? Parce que tout le monde a un avis sur les rythmes scolaires.
Ah oui, ça.
Difficile de mettre tout le monde d'accord. Il y a les intérêts divergents, le tourisme pour les vacances, les parents qui ont aussi leur propre rythme, les profs, etc. Vous, à votre avis, est-ce qu'il faut tendre effectivement à une idée où il y aurait les cours principaux le matin et l'après-midi, on ferait plus du sport, la culture, des choses?
Alors, d'abord, à l'école, dans le premier degré, c'est déjà ce qui se passe. Les professeurs font le français, les mathématiques le matin et ils font les autres cours l'après-midi parce que, voilà. Bon, donc c'est quand même un peu ça qui se pratique dans la vraie vie des vrais professeurs. Mais au collège, c'est plus difficile parce qu'il faut croiser les emplois du temps de tous les professeurs et faire en sorte que ça rentre dans la chaussure. Moi, ma conviction profonde. D'abord, sur les rythmes scolaires hebdomadaires, vous savez, 4 jours, 4 jours et demi. Moi, personnellement, je suis pas forcément favorable à une remise en cause profonde de la situation actuelle, qui est plutôt 4 jours, sauf si ceux qui le souhaitent font 4 jours et demi. Parce que ça pose tout un tas de problèmes. Et qu'au bout d'un moment, en fait, les problèmes qui sont liés à la situation des parents, etc., finalement, contrebalancent le bénéfice pour l'enfant. On n'a aucun doute sur le fait qu'un enfant, il apprend mieux le matin. Simplement, si tout ce qui est autour de lui est moins favorable, on n'y arrive pas. Donc, c'est tout ce qui se travaille. À mon avis, qui travaille aussi au niveau local, c'est pas la même chose si je suis au bord du fleuve Moroni et si je suis en plein cœur de Paris.
On peut décentraliser, ce qui...
Bah, en tout cas,
l'éducation
avoir une approche
nationale, toujours un peu de mal à faire.
Mais moi, pour moi, avoir une approche territoriale, c'est ce qui s'impose dans la matière. Si vous voulez, je suis pas favorable au niveau national à dire c'est 4 jours et demi pour tout le monde ou 4 jours pour tout le monde. J'y crois pas tellement. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin probablement que nos ados commencent un peu plus tard le matin, plutôt à 9h qu'à 8h. Ça, c'est des choses qu'on est en train de promouvoir auprès de nos chefs d'établissement. C'est pas toujours possible, hein. Ça rentre pas non plus toujours dans la chaussure. Une fois encore, si je prends ma pirogue sur le fleuve Moroni, mes gamins, ils arrivent à 7h du matin au collège. Donc là, c'est l'inverse. On ouvre pour pas qu'ils soient dehors. Et pour répondre à votre deuxième question, je fais le lien, du coup, entre les deux. L'école, c'est ni un bunker, ni une passoire. Ça peut pas être un bunker, parce qu'il faut effectivement, elle est au contact, elle est perméable à la société. Ça peut pas non plus être une passoire à laquelle tout le monde rentre, si je puis dire, n'importe comment et sans contrôle. Ça renvoie à d'autres sujets qu'on connaît, mais voilà. Donc là aussi, c'est une question d'équilibre. On fait, pour répondre très précisément à votre question, ce qu'on appelle la découverte des métiers au collège, dès la cinquième. C'est-à-dire qu'il y a des demi-journées qui sont organisées pour que les élèves puissent rencontrer des intervenants extérieurs, des chercheurs, des scientifiques, des industriels, des ouvriers qualifiés, tout ça, pour qu'ils puissent s'ouvrir à la diversité des métiers. Notre objectif, grosso modo, pour faire simple, c'est qu'aujourd'hui, un élève, il connaît en fin de troisième 15 métiers. Notre cible, c'est que d'ici 3 ans, ils le connaissent 50. Au sens qu'ils soient capables de parler de 50 métiers différents.
Alors, le retour de l'exigence. Vous avez demandé aux professeurs de toutes les disciplines d'être vigilants sur notamment l'orthographe et la grammaire. Et vous voulez ce retour de l'exigence, qu'on sanctionne aussi quand il le faut, les fautes d'orthographe, les fautes grammaticales, et pas seulement d'ailleurs au moment du brevet et du bac. À ce sujet, Cécile Duflo a pris la parole ce matin sur RMC. Écoutez ce qu'elle dit.
La langue et l'orthographe française, c'est souvent illogique et absurde. Je vous donne un exemple. Chariot et charrette, ça vient du même mot, mais chariot, il y a un seul R, charrette, il y a deux R. Pourquoi ? Zéro raison. Mais c'est un puissant outil de distinction sociale et ça a même été créé pour ça. Si on regarde d'ailleurs le Littré, un grand dictionnaire historique, on voit qu'il y avait plein d'orthographes acceptées pour le même mot jusqu'au 18e, 19e et ensuite on a fossilisé l'orthographe et c'est devenu un outil grâce à la dictée de sélection scolaire. Il faut se dire que le vrai sujet de la langue, c'est de se comprendre. Donc cette obsession de l'orthographe, en fait, c'est une obsession un peu dysfonctionnelle et surtout, si elle conduit à empêcher des gens qui ont de grands talents de pouvoir continuer, là, ce serait vraiment une faute. En fait, un ministre de l'Éducation qui ne sait pas trop quoi dire, il dit « vive la dictée » et ensuite, il dit « on va rendre l'orthographe obligatoire au bac ».
Voilà, vous ne savez pas trop quoi dire, alors, visiblement, Edouard Geffray.
Oh bah, je connais un peu mes sujets, mais ce n'est pas grave, on ne va pas répondre à ça, ce n'est pas très important. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est la façon dont le sujet a été déformé. J'ai dit « orthographe, grammaire, syntaxe ». C'est le cumul des trois, c'est-à-dire la maîtrise de la langue. Parce que la première inégalité professionnelle, quand vous passez un entretien, quand vous faites un CV, quand vous faites une lettre de motivation, c'est la maîtrise de la langue. Donc, on peut se gargariser tous les jours, à parler d'égalité des chances, de machin, le cœur sur la main, tout ça. Si à la fin, on renonce à l'exigence sur la maîtrise de la langue, on envoie les gens en casse-pipe. Et c'est quelqu'un qui connaît assez bien ces sujets-là qui vous le dit. Donc, mais c'est intéressant, parce que du coup, tout le monde part en fixette sur l'orthographe. L'orthographe, d'abord, il y a eu une réforme d'orthographe en 1990, ça n'a pas resté figé depuis le Littré. Et ça a précisément, c'est vivant l'orthographe, la langue est vivante. Et il n'y a pas que l'orthographe. La grammaire et la syntaxe, en revanche, moi ce que je dis, c'est qu'un élève qui ne relit pas sa copie et dont le niveau d'expression est calamiteux, il y a un moment où il faut que notre devoir, et c'est pas par plaisir, hein, mais notre devoir, c'est de dire, bah, en fait, cette copie-là, elle peut pas avoir la moyenne. C'est tout. Pas non plus révolutionnaire hein, comme truc. D'ailleurs, j'ai dit ça. Enfin, c'était pas ni une annonce, ni une politique générale. J'ai juste dit, il y a un moment, il faut avoir ce qu'on appelle une juste
exigence. Pourquoi on a un peu abandonné le combat à un moment donné ?
Je pense qu'on a un peu abandonné. C'est très progressif, en réalité. C'est un truc qui s'est un peu installé et en se disant, bon, de toute façon, voilà, aujourd'hui, les jeunes, ils ont moins besoin.
Il y a la méthode globale qui a fait des ravages, hein, surtout.
Alors, ça, c'était oui.
Oui, mais
c'est une génération.
Mais en tout cas, ouais. Mais en tout cas, il y a
ma génération.
Je pense qu'il y a une espèce d'affaiblissement collectif de ce point de vue-là, assez partagé d'ailleurs. C'est-à-dire que les parents disaient aussi de tous quoi, on se dit bon, c'est moins important. Mais en réalité, c'est pas moins important parce que et à fortiori aujourd'hui, hein, dans un monde où tout se fait par réseaux sociaux, où nos jeunes vont être amenés à prompter de l'IA, etc. En réalité, s'ils n'ont pas un vocabulaire suffisant, s'ils n'ont pas une expression de qualité, eh ben ils seront marginalisés.
Laura.
Oui, moi je.
Rapidement, sinon. Oui, oui.
Laura qui n'a pas été à l'école. Hein.
Non, Laura n'a pas été à l'école. Non, mais moi
on l'a récupérée. Niveau CM1.
Rapidement, mais il me coupe la parole. Vous voyez. Non, là, moi, je suis complètement d'accord avec vous sur la maîtrise de la langue. Ça sauve, ça nous donne une crédibilité, ça donne.
D'accord, mais vite la question, on a 30 secondes, Laura, donc vas-y.
Non, mais je suis juste d'accord.
Et ah bon, t'es d'accord, c'est pour dire que t'es d'accord, t'as pas de question.
Ça fait peut-être du bien à un ministre de temps en temps de nous dire
oui,
qu'on est d'accord.
C'est pas faux, ça.
Moi, je dis, lâchez rien sur l'orthographe, je suis dyslexique, dysorthographique. La seule chose que je peux vous demander, c'est faites en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'orthophonistes, comme ouais. Ça se passe en Angleterre, où en fait, vous avez des orthophonistes. Vraiment qui vont dans le fond pour les gens qui bégayent, qui ont des réels problèmes d'élocution, mais ils ont fait comme un sous-diplôme des orthophonistes qui ne travaillent que la 10.
Que les 10.
Ce qui fait que ça désengorge. Moi, je vois, j'ai mis 3 ans avant de pouvoir voir une orthophoniste pour régler mes problèmes de dyslexie.
Alors, et on a fait court. Édouard Geffray, réponds, parce que vraiment, on a, le temps est imparti.
Indépendamment du fait qu'on est d'accord, mais hyper intéressant. Et notamment, l'un des enjeux, c'est de faciliter l'accès des enfants à l'orthophoniste pour pas qu'ils aient à quitter les cours, à revenir, et en réalité, à rater 3 heures de cours quand ils font 45 minutes d'orthophoniste. Ça, c'est un enjeu majeur, ce que l'on travaille actuellement. Mais je prends le point aussi sur le diplôme.
Merci Edouard. J'ai une dernière question.
Ouais.
Le bac, on continue ou on supprime?
Ah ben on continue. Pourquoi vous le supprimez?
Bah parce qu'on a l'impression qu'on va vers sa suppression. Parce qu'on le réforme, il est de plus en plus court. Maintenant, il n'y a que 4 épreuves.
Non, mais il faut arrêter de vouloir supprimer tout comme ça. Hein. Il y a un truc qui s'appelle l'institution qui ont fait leurs preuves. Et puis, les rites de passage et les examens qui mettent de certifier un niveau, c'est quand même pas fait pour les chiens. Donc, non, on garde.
Merci Edouard Geffray dans Les Grandes Gueules sur RMC et RMC Story. Dans un instant, on va parler peut-être d'une génération sans tabac qui pourrait s'installer. Parce que, par exemple, au Royaume-Uni, on a décidé d'interdire la vente de cigarettes à tous les jeunes nés après 2008. Donc ceux qui auront 17 ans et donc on veut créer une génération sans tabac. Est-ce qu'il faut faire la même chose en France? Ça sera d'ailleurs un des sujets de la présidentielle. A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Retour des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, avec Joël Dagosséry, Laura Barthaud-Martinez et Charles Consigny.
Toujours aussi dissipé.
Attention. L'alerte. Ligue des Champions. C'est le moment pour vivre l'expérience RMC et gagner vos places pour cette rencontre demi-finale de Ligue des Champions la semaine prochaine. PSG Bayern de Munich, c'est précisément mardi prochain à 21h au Parc des Princes. Vous avez donc 5 minutes désormais pour envoyer le mot PSG au 7-32-16. PSG 7-32-16. Et j'espère que vous aurez ces deux places et vous vivrez l'expérience RMC. À vous de jouer, à vous de gagner.
Cette cigarette grille des mégots de vieux clopos sous les conseils de médecine. Lui dans poumon magazine, fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices.
Alors, va-t-on vers une génération sans tabac? En tout cas, c'est intéressant ce qui se passe au Royaume-Uni, puisque nos amis anglais ont décidé d'interdire la vente de cigarettes à toute personne née après 2008, c'est-à-dire ayant moins de 18 ans aujourd'hui. Il s'agit du deuxième pays au monde à instaurer ainsi une interdiction générationnelle après les Maldives. Toutes les personnes nées après le 1er janvier 2009, et qui ont donc actuellement 17 ans ou moins, ne pourront jamais acheter légalement de cigarettes. C'est assez fort comme mesure. Est-ce qu'il faut faire la même chose? Créer une première génération sans tabac, protégée d'une vie entière de dépendance et de dommages que commet bien sûr le tabac. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Laura?
C'est bien, à condition qu'on devienne beaucoup plus strict sur tout ce qui est les vapotes. C'est-à-dire qu'on avait eu un sujet la semaine...
Dans le vapotage.
Voilà, on avait eu un sujet la semaine dernière.
Dis celle qui vapote.
Oui, complètement, mais moi je suis pas 2008. Je suis bien avant, je suis siècle dernier. Mais, c'est-à-dire qu'il faut pas que les... Ben oui, siècle dernier.
T'es génération 78?
Non,
78.
C'est Charles qui y apporte quoi. Génération 93?
Ouais. Je suis une millennial. Non, mais on avait le sujet la semaine dernière où justement...
Oui, mais d'accord, mais laissons passer de côté le vapotage. Est-ce que c'est une bonne idée d'interdire finalement définitivement le tabac? Parce que c'est ça, derrière.
écouter, pourquoi pas? Ou alors faire directement.
Est-ce que c'est pas liberticide?
Il faut alors directement supprimer, enfin faire passer le paquet de 10 à 20 euros, arrêter avec les hausses de petits centimes, faire un truc franc.
Le
et
paquet
dur.
Est à 12 ou 13 hein, maintenant. Hein.
Ouais, bah, tu fais passer là tout de suite à 20, je pense qu'il y en a qui vont s'arrêter de fumer tout de suite maintenant.
Charles, est-ce qu'il faut effectivement interdire la vente de cigarettes à partir d'une certaine génération pour que ça s'arrête?
Pourquoi pas?
Oui, toi t'es pas contre.
Pourquoi pas? Parce que. Même si j'ai eu énormément de plaisir à fumer, je suis content d'avoir arrêté. Je connais des gens qui ont eu des cancers, certains qui ont survécu, d'autres pas. C'est quand même un truc, voilà, qu'il faut essayer d'anéantir purement et simplement. Et puis on voit bien que maintenant que c'est un peu sorti de la société, on en mesure toute l'absurdité de la cigarette quand même. Donc, le libéral libertaire que je suis ne serait pas hostile à cette mesure.
Oui, ça va à l'encontre de tes propres convictions.
De salubrité publique. Si quelqu'un veut vraiment fumer, il trouvera.
Ah ben là, il pourra plus. Ah ben non. Là, parce qu'il aura grandi. Oh. Il aura grandi dans un monde sans tabac.
Ouais, tu vas pour ouais, tu vas à Gare du Nord, tu te trouves
si
un
paquet de
clopes.
Oui,
mais aujourd'hui,
fumer, il trouvera.
Mais aujourd'hui, là, vous parlez d'une situation. Mais si tu pars d'une génération qui n'aura jamais la possibilité d'acheter la cigarette, forcément la cigarette. Il va s'éteindre définitivement.
De toute façon, on parle dans le vide. Il y a tellement de lobbyistes derrière et l'État se fait tellement d'argent sur les clubs que.
Le Royaume-Uni a décidé à réussir.
Regarde-moi, par exemple, j'ai piqué les cigarettes de mon père. J'ai fumé une cigarette. Il est plus vivant, donc je peux le dire.
J'avoue maintenant.
J'ai piqué sa vogue menthol pour la fumer dans les toilettes. Donc, ce qui veut dire que si j'avais été dans cette génération interdite à la cigarette, si tu as quand même quelqu'un, un ami plus âgé, un parent ou quoi que ce soit, tu peux quand même.
Oui, mais tu n'auras plus le droit d'acheter.
Oui, mais il y aura toujours des gens qui vont te le vendre sous le manteau, ou un grand frère ou un ami qui ira acheter au tabac pour toi. Donc, tant que. Bah, si, ça va. Après. Dans 50 ans, peut-être qu'il y aura plus. Mais je veux dire, ça va pas partir comme ça. Et moi, je suis un peu comme Charles. Si j'avais deux trucs qui se battaient, il y avait mon côté.
C'est ça.
Liberté qui disait, mais attends, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, il y a le côté qui dit, attends, on vit quand même dans une société collectiviste. Tant que je vis dans cette société, j'aimerais que ce soit interdit. Le jour où on pourra chacun récupérer 50% de notre effort et que chacun va payer sa sécu, à ce moment-là, oui, si t'as envie de fumer et te cancériser, c'est ton problème, tu vois. Mais là, aujourd'hui, on est tous, entre guillemets, dépendants les uns des autres. Donc moi, je dis, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Ce qui est amusant, voilà. C'est que, on va donc quand même, on sent que c'est un peu le sens en ce moment d'histoire. C'est on va vers une interdiction du tabac. Il y a des villes déjà qui interdisent le tabac, New York, la cigarette. Il y a de plus en plus d'endroits interdits à la cigarette. C'est de plus en plus compliqué de fumer pour les fumeurs. Et puis par ailleurs, on va sans doute dépénaliser le cannabis, comme on le fait d'ailleurs dans d'autres pays.
Mais
on va y arriver. Vous allez voir.
Non,
donc on arrivera à un monde où on pourra fumer un pétard et on pourra l'acheter. Les bureaux de tabac ne vendront plus de tabac, mais vendront des pétards. Alors est-ce que c'est mieux, pas
non,
mieux, mais c'est ça qui est
l'un
amusant.
Ni l'un ni l'autre.
Non, mais reconnaissez que c'est
paradoxal.
C'est paradoxal. C'est-à-dire qu'on est impitoyable aujourd'hui. On a raison sans doute sur la cigarette. Et en revanche, on se dit finalement, le cannabis, comme tout le monde en fume, il va falloir peut-être un jour autoriser.
Je sais qu'on est un peu incohérent en France, mais là, je pense qu'on serait cohérent. Tu ne vas pas interdire la cigarette et puis légaliser le cannabis. Ça n'a aucun
sens. Moi, je pense qu'ils en sont capables.
Ben oui, parce que. On va dire que le cannabis, ça provoque moins de cancer. Enfin, on trouvera toujours des raisons objectives de dire que c'est moins grave que le tabac, tu verras.
Et ils vont te dire que oui, mais on rouspète pour le trafic de drogue qui fait de la délinquance et ça fait de l'argent parallèle, etc. Là, on crée des.
Et après, certains vont dire, mais pourquoi pas interdire l'alcool? Parce que
là,
moi, je trouve très. Est-ce qu'il y a quand même pas un problème de liberté? C'est quand même assez liberticide. Bien sûr que c'est mauvais pour la santé. Il y a plein de choses mauvaises pour la santé. Est-ce qu'on doit interdire définitivement un produit parce que il peut être mauvais pour la santé si on en consomme?
On a plein, mais regarde la liste des produits qui sont interdits en France.
Des
médicaments qui sont autorisés à l'étranger, qui sont interdits ici. Donc, je vois pas pourquoi la cigarette échapperait tout d'un coup.
Non, mais c'est
une
déjà
interdit.
Très restreint. Est-ce qu'il faut aller vers l'interdiction totale?
Si tu veux vraiment une liberté pour tout le monde et quelque chose de respectueux pour tout le monde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fumes une cigarette, toutes les maladies qui peuvent découler d'un tabagisme actif ne sont plus prises en charge par la sécurité sociale.
Ouais,
et là, si tu. Mais tu vois, en fait, tu peux réfléchir à plein de choses, mais je peux comprendre aussi le positionnement de Joël. Moi, je suis pour qu'on interdise. Mais je peux.
Non, mais c'est marrant, parce que tous les trois, vous êtes pour l'interdiction
parce
totale.
Que
parce que la clé, en même temps, vous avez des grands discours sur les libertés. Mais bien sûr, c'est pas bon. Il y a plein de choses qui sont pas bons. Pardon,
oui,
je suis désolé, le sucre, c'est pas bon.
C'est pas. Pour moi, on peut pas le comparer à l'alcool, par exemple. Je suis désolé quand même, le vin, etc. Il y a autre chose que la dose d'alcool dedans. Les gens ne boivent pas.
Ça ne crée pas la même dépendance.
Pour se shooter à l'alcool.
La bah, tu tombes plus vite, fumeur compulsif, que buveur compulsif.
C'est quand même un truc où tu fumes quand même essentiellement pour t'envoyer un coup de nicotine dans le cerveau. Mmh. Bon, c'est voilà. C'est
mais pas je reprenais l'argument de Joël sur la santé. Oui. Il faut faire attention à ce type d'argument parce qu'il y a beaucoup de produits que nous consommons qui sont mauvais pour la santé. Si on commence à interdire tous ces produits-là, c'est un problème de liberté aussi.
Mais par destination, normalement, ils ne le sont pas. Si c'est en surdose qu'ils le deviennent. Enfin, par exemple, si on prend le sucre. Souvent, on fait le comparatif avec le sucre. Le sucre, en temps normal, bien consommé, t'as pas de problème. Mais en surdose, ça devient un problème. La cigarette,
c'est bah, un problème dès la première
dire, ne serait-ce que la composition du produit en lui-même, bon,
tu
peux pas dire que c'est hyper sain. Donc non. Et en plus, pour la cigarette comparée à l'alcool, c'est-à-dire que l'alcool, normalement, quand toi tu bois ton verre de rouge, enfin, je veux dire, moi j'ai aucun risque d'être d'avoir un seul gramme dans le sang normalement à moins que
non mais tu peux subir les conséquences de ton alcoolisme.
Oui, c'est vrai.
Pardon, mais les violences conjugales c'est très lié à l'alcool.
C'est vrai aussi mais la cigarette quand même enfin ne serait-ce que même dans ça le goudron, la nicotine, enfin toi rien qu'à la fabrication, tu te dis non, il y a quelque chose qui va pas alors que l'autre c'est du raisin fermenté. Bon, enfin je ne mettrais
mais
pas
quand
ou
vous
même
parlez que du vin, ça vous arrange. Mais pardon, quand on parle d'alcool, c'est les alcools forts, c'est aussi les gens qui se mettent minables, c'est l'alcoolisme, c'est le drame de, enfin, c'est des drames humains, l'alcoolisme.
Moi, ça diminue l'alcool, la consommation de l'alcool diminue chez les jeunes. Donc, il y a aussi ça. Et
la cigarette aussi, ça diminue.
Donc,
La cigarette, ça diminue aussi.
Hein. Ici, ça diminue.
Ça diminue, notamment chez les jeunes qui se mettent maintenant à vapoter.
Il y a que 3% des jeunes jusqu'à 17 ans, je crois, qui fument. Mais le problème, c'est pour ça que je parlais du vapotage, c'est qu'en parallèle, t'as tout un commerce avec des produits rigolos qui font des multicolores quand tu tires dessus, au goût, machin et tout. En fait, ça devient un truc récréatif de la même manière que nous, on pouvait avoir les pièces en chocolat après l'école. Ben, c'est le truc récréatif. Donc, en fait, tu peux pas juste faire ça. Mais laisser libre cours à tout un nouveau marché que peut être le vapotage pour les jeunes, puisque les ravages, on peut pas vraiment encore bien les connaître. On sait qu'il y a des trucs pas bons. On sait que de toute façon, il vaut mieux respirer un truc pur tout court que de mettre n'importe quoi dans tes poumons. Mais on n'a pas encore conscience de tout ce que ça peut donner comme dégâts, puisque le truc, allez, ça fait peut-être quoi, 5 ans que c'est vraiment, qu'on voit tout le temps quelqu'un avec une vapote, des nuages de fumée de dragon, des trucs lumineux. Donc. Tu peux pas, encore une fois, c'est exactement le même parallèle que t'as fait avec le cannabis. Tu ne peux pas interdire fermement et drastiquement un produit quand t'as des dérivés qui sont autorisés à côté. C'est soit, mais c'est un peu le problème de notre gouvernement, c'est qu'à chaque fois,
au-delà même de ce gouvernement,
c'est toujours des fausses bonnes idées. C'est-à-dire qu'on fait un truc, mais on le fait pas complètement.
C'est vrai, mais moi je dis que c'est à tester quand même.
Je suis
assez preneuse de nouvelles idées.
Oui, mais c'est pour ça soit tu fais, soit tu fais pas, parce que c'est quand même.
La cigarette.
Non, mais c'est radical. C'est-à-dire que si tu décides que toute personne née après une certaine date ne pourra jamais de sa vie acheter des cigarettes légalement, c'est pas un test. Tu y vas ou tu y vas pas.
Et tu payes là.
Et tu fais pas de vapote et d'interdiction à la vapote non plus. Enfin, j'estime que tant que tu commences pas, tu peux pas devenir accro. Et en fait, c'est là tout le drame.
Ça marche quand, par exemple, en France, ça marche si t'es à Orléans, mais tu vois, si tu vis sur les côtes et que t'es un frontalier. Bah,
jeune de 18 ans, ils vont pas aller acheter à la frontière.
À la frontière, t'achètes ta cartouche, faut te la payer quand même. Hein.
C'est leurs parents qui font ça.
Oui.
Toi, t'as acheté ta première cartouche à quel âge ?
Non, bah non. C'est la question piège. Tu sens le journaliste. Je n'ai jamais acheté de cartouche. Non, j'ai fumé qu'une seule cigarette, celle de mon papa.
Ah bon, une seule ?
Oui, que je lui ai piqué, que je lui ai volé, et puis c'est tout. Après,
et ça t'a pas donné envie d'acheter un paquet de cigarettes ?
Non, je me suis dit non.
Et toi, Charles, t'avais commencé à quel âge ?
Spécial.
Pas très tôt. 17 ans.
Ouais.
17 ans.
C'est tôt, ouais.
Bah, t'aurais pas pu, là.
Mais j'adorais fumer, hein. Je devrais pas le dire à l'antenne.
J'adorais
fumer.
De toute façon, si vous j'adorais plus, ça, c'est parce qu'il y a un génial. Plaisir derrière. Et pourquoi t'as arrêté?
Parce que je voulais arrêter avant 25 ans, en me disant que si je n'arrêtais pas avant 25 ans, j'aurais beaucoup de mal après. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à ce micro, j'ai arrêté grâce à un livre miracle qui s'appelle La méthode simple pour en finir avec la cigarette. D'Alain Carr, qui a marché.
Un best-seller.
Et parce que par ailleurs, j'étais tellement accro que ça rendait compliqué pour moi Le fait de prendre l'avion, par exemple, je ne le supportais pas parce que j'étais, dès le début du vol, obsédé par la cigarette que j'allais pouvoir fumer en sortant de l'aéroport
t'étais
à l'arrivée.
Très dépendant.
Et quand je prenais le train, je descendais à toutes les gares fumer des clopes. Donc j'étais
une vraie dépendance.
Extrêmement dépendant, mais c'était en même temps un grand plaisir. S'il m'arrive une énorme tuile dans la vie, peut-être que je reprendrai.
On va écouter Vincent. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour à tous, bonjour à l'équipe.
Merci d'avoir appelé 3216 parce que vous avez été un gros fumeur, vous l'êtes encore ?
Oui, je le suis toujours malheureusement.
Vous avez quel âge ?
J'ai 56 ans.
Et vous avez commencé à quel âge ?
14 ans.
Ah ouais. Si cette interdiction avait été effective à votre génération, ça vous aurait aidé ?
Sans aucun doute. Sans aucun doute, ça m'aurait évité pas mal de soucis.
Donc vous êtes plutôt d'accord avec ce qui se passe au Royaume-Uni ?
Oui, à 100%.
Mais vous n'arrivez parce qu'en fait vous êtes vraiment dans une dépendance, j'imagine. Vous avez ou alors vous dites non, j'ai pas envie d'arrêter, j'aime ça, tant pis.
Non, j'aime pas ça du tout. Pour être honnête, là actuellement, j'en suis à 2 paquets de 25 par jour.
Ah oui.
Financièrement, c'est énorme. C'est plus de 30 euros la journée.
2 paquets de 25 par jour.
Oui. Ouais.
Vous avez lu la méthode simple,
la méthode Alan Carr.
Alan Carr, je sais pas si c'est lui, mais j'ai lu un bouquin il y a quelques années qui était soi-disant la recette miracle. Mais quand on est vraiment intoxiqué, c'est très très compliqué.
Il y a l'hypnose aussi qui peut marcher. Moi, je connais des gens qui ont arrêté de fumer grâce à l'hypnose.
Ça marché, je vous recommande Alan Carr.
Moi,
je connais aussi des gens qui ont arrêté avec Alan Carr.
Beaucoup, hein. Je fumais beaucoup, beaucoup. Alors, j'étais plus jeune, c'était peut-être un peu moins installé dans ma vie.
Combien tu fumais?
Parfois, je fumais 2 paquets. Facilement.
2 paquets.
Ouais, si je sortais le soir, je fumais largement 2 paquets.
Ça va vite.
Mais j'ai fait beaucoup de sport aussi, qui ont peut-être contribué.
Bon, ben, bon courage à vous, Vincent. Mais Vincent, gros fumeur qui n'arrive pas à s'en sortir, dit, moi, j'aurais aimé qu'effectivement, on interdise à une génération de fumer
publique,
comme au Royaume-Uni. Merci, Vincent. Merci à tous. Estelle Denis nous rejoint. Salut, Estelle.
Salut, Olivier.
Le micro t'attend, c'est pas très pratique. Voilà, comme ça.
Nous avons Yael Mellul qui a arrêté de fumer l'année dernière grâce à l'émission. Donc, comme quoi,
grâce à l'émission.
C'était une grosse fumeuse. Elle a arrêté totalement de fumer. Elle sera avec nous dans un instant. Tiens. Nous allons parler de ce SMIC proposé par le Parti Socialiste à 1690 euros net. Pour ou contre cette augmentation de 17%. Mais écoutez, vous nous dites tout au 3216 et bien sûr sur le WhatsApp d'Estelle Midi. On se demandera s'il faudrait baisser le tarif des transports en commun pour lutter contre la hausse des carburants. C'est la région Centre-Loire qui fait ça. Est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise idée?
Comment on finance?
Ah ben ça, c'est-à-dire que tout le monde paye, parce que rien n'est gratuit, vous savez, dans ce monde. Olivier, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Je ne sais pas si vous avez vu cette touriste qui a dégradé une statue de la fontaine Neptune à Florence. Oui, parce qu'en fait, il y avait un EVJF, un enterrement de vie de jeune fille, elle devait toucher les parties intimes de la statue.
Ah, c'est pas dégradé, ça.
Bah si, elle l'a dégradé, 5000 euros de dommages sur la statue. Est-ce qu'il faut en finir, je veux dire, avec ces défis stupides, avec ces EVJF, ces enterrements de vie de jeune fille, ces enterrements vie de jeune garçon?
C'est peut-être pas les enterrements, c'est la fille qui est débile, tout simplement.
Mais en fait, tous ces trucs-là sont débiles, Olivier. Vous avez déjà vu vous avez déjà vu un EVJF qui est intelligent? À chaque fois, tu te retrouves avec des nanas qui sont déguisées en infirmières, qui font la manche dans la rue. Enfin, c'est insupportable. Qui ont des oreilles de lapin, qui vont en club de striptease, alors que jamais dans ta vie normale tu ferais ça. Mais pourquoi
faire
ça, en fait?
Dans un club de striptease, non, jamais.
Donc pourquoi faire ça pour enterrer ta vie de garçon?
J'ai eu un enterrement de vie de garçon à Tours la semaine dernière, avec un
mec
qui avait un pantalon en dentelle derrière, troué de partout, et on voyait ses fesses.
Voilà. Non mais c'est
super. Ça préfigure le naufrage du mariage.
Oui, voilà. Mais dans ces cas-là, te marie pas, mais ne fais pas de VJF ou de
De VG.
Ah oui, appelez-moi. 3216.
On se retrouve demain à 9h. Allez, bon après-midi.